Au début, on n'osait pas parler. On était quand même un peu émus. Et Simon regardait dans son rétro toutes les 10 secondes. On s'attendait peut-être à entendre les sirènes d'une voiture de police lancée à nos trousses par une Karine folle de rage et la bouche pleine d'écume. Mais non, rien, calme plat. Lola était assise devant et je m'étais accoudée entre deux. Chacun attendait que son voisin brise la gêne. Simon a allumé la radio et les Bee Gees bêlaient.
Ah, 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 staying alive, staying alive.
Oh, peu cher, c'était trop beau pour être vrai. C'était un signe, c'était le doigt de Dieu. Non, c'était une dédicace de Patou à Dany pour fêter leur anniversaire de rencontre au bal de Trignac en 1978. Mais ça, on ne l'a su que plus tard. Nous avons repris tous en chœur.
Ah, 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 staying alive, staying alive. Ah, 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 staying alive.
Pendant que Simon zigzaguait sur la D114 en dénouant sa cravate. J'ai remis mon fut et Lola m'a tendu son chapeau pour que je le pose à côté de moi. Au prix où elle l'avait payé, elle était un peu déçue. Bah, je lui ai dit pour la consoler, tu le remettras à mon mariage. Rire énorme dans l'habitacle. L'ambiance était revenue. Nous avions réussi à éjecter l'alien hors du vaisseau spatial. Il ne nous restait plus qu'à récupérer le dernier membre d'équipage. Je cherchais le bled de Vincent sur la carte et Lola faisait le DJ. On avait le choix entre France Bleu Creuse et Radio Gélinotte. Rien de très Sound System, mais quelle importance. Nous tchatchions comme des dingues.
Je t'aurais jamais cru capable d'une chose pareille.
Finit-elle par dire en se tournant vers notre chauffeur.
Avec l'âge, on devient plus sage ?
A-t-il souri en acceptant l'une de mes cigarettes. Nous roulions depuis 2 heures et j'étais en train de leur raconter mon séjour à Lisbonne quand je...
Qu'est-ce qu'il y a ?
Mais tu n'as pas vu ?
Mais vu quoi ?
Le chien.
Quel chien ?
Sur le bas-côté.
Mort ?
Non, abandonné.
Hé, mais tu mets pas dans un état pareil.
Non mais c'est parce que j'ai vu son regard, tu comprends ? Il ne comprenait pas. Pourtant il m'avait scanné ce kleps, j'en étais sûre. Ça m'a fichu un bourdon terrible. Puis Lola s'est remémoré notre évasion en massacrant la musique de Mission Impossible à tue-tête et j'ai pensé à autre chose. Je tenais la carte, je rêvassais, je revoyais les parties de la nuit passée. J'avais bien fait ma maligne au dernier tour avec un carré de la loose, mais enfin, j'avais gagné quand même. Tout cela tombait sous le sens à présent. Quand nous sommes arrivés, la dernière visite venait de commencer. Un jeune type blanc comme une endive, assez craspec et avec un regard de veau engelé, nous a conseillé de rejoindre le groupe au premier étage. Il y avait là quelques touristes égarés, des femmes à la cuisse molle, un couple d'instituteurs recueillis en méphisto, des familles équitables, des gamins ronchons et une poignée de bataves. Tous s'étaient retournés en nous entendant arriver. Vincent, lui, ne nous avait pas vus. Il était de dos et commentait ses mâchicouliers avec une fougue que nous ne lui connaissions pas. Premier choc. Il portait un blazer élimé, une chemise rayée, des boutons de manchette, un petit foulard rentré dans le col et un pantalon douteux mais à revers. Il était rasé de près et ses cheveux étaient plaqués en arrière. Deuxième choc, il racontait n'importe quoi. Ce château était dans la famille depuis plusieurs générations. Aujourd'hui, il y vivait seul en attendant de fonder un foyer et de remettre les douves en état. C'était un endroit maudit, puisqu'il avait été bâti en cachette pour la maîtresse du troisième bâtard de François Ier, une certaine Isor de Haut-Brabant, rendue par lui folle de jalousie, disait-on, et qui était un peu sorcière à ses heures.
Et encore aujourd'hui, mesdames, messieurs, les nuits où la lune est rousse dans le premier des camps, on entend des bruits fort étranges. Des espèces de râles montées des caves, celle-là même qui faisait office de geôle autrefois. En aménageant la cuisine actuelle, que vous verrez tout à l'heure, mon grand-père a retrouvé des ossements datant de la guerre de 100 ans et quelques écus frappés du sceau de Saint-Louis. À votre gauche, une tapisserie du XIIe siècle, à votre droite, un portrait de la fameuse courtisane. Notez le grain de beauté sous l'œil gauche, signe incontestable de quelque malédiction divine. Vous ne manquerez pas d'admirer la magnifique vue depuis la terrasse. Les jours de grand vent, on aperçoit les tours de Saint-Roch. Par ici, s'il vous plaît. Attention à la marche.
Pensez-moi, je rêve. Les touristes regardaient attentivement le grain de beauté de la sorcière et lui demandaient s'il n'avait jamais peur la nuit.
Parbleu, mais c'est que j'ai de quoi me défendre.
Il désignait les armures, hallebardes, arbalètes et autres massues accrochées dans l'escalier. Les gens acquiesçaient gravement et les caméras se dressaient. Mais qu'est-ce que c'était que ce délire ? Quand nous sommes passés devant lui en quittant la pièce, son visage s'est illuminé. Rien que de très discret, hein. Un hochement tout au plus. Cette complicité du sang et des anciennes accointances. La marque des grands. Nous pouffions entre les aumes et les arquebuses pendant qu'il continuait à pérorer sur les difficultés qu'engendrait l'entretien d'une telle bâtisse.
400 mètres carrés de toiture, 2 km de gouttière, 30 pièces, 52 fenêtres et 25 cheminées, mais pas de chauffage, ni d'électricité d'ailleurs. Et pas encore l'eau courante maintenant que vous m'y faites songer. D'où la difficulté pour votre humble serviteur de trouver une fiancée.
Les gens riaient.
Ici, un portrait très rare du comte de Dunois. Notez les armoiries que vous retrouverez sculptées sur le fronton du grand escalier dans l'angle nord-ouest de la cour. Nous pénétrons à présent dans une chambre à alcôve aménagée au 18e par ma trisaïeule, la marquise de la Lariotine, qui venait chasser à cour dans les environs. Pas seulement à cour, hélas. Et mon pauvre marquis d'oncle n'avait rien à envier à la prestance de ce beau décor que vous avez pu admirer dans la salle à manger tout à l'heure. Attention madame, c'est fragile. Par contre, je vous conseille vivement de jeter un cil dans le petit cabinet de toilette. Brosse, boîte à sel et pose à onguent sont d'origine. Non, ça mademoiselle, c'est un pot de chambre de la deuxième moitié du 20e et ceci, un bac pour absorber l'humidité. Nous arrivons maintenant devant la plus belle partie du château, l'escalier à vis de l'aile nord, avec sa superbe voûte en berceau annulaire, pur chef-d'œuvre de la Renaissance. Merci de ne pas toucher car le temps fait son grand œuvre et mille doigts, je m'en désole, valent autant qu'une pointerolle.
J'hallucinais.
Je ne peux malheureusement pas vous montrer la chapelle qui est en cours de rénovation, mais je vous adjure de ne pas quitter ma modeste demeure sans avoir effectué un tour dans le parc, où vous ne manquerez pas de ressentir les étranges vibrations que dégagent ces pierres destinées, je vous le rappelle, à abriter les amours d'un presque roi, pris dans les filets d'une troublante jeteuse de sorts.
Murmure dans l'assemblée.
Pour ceux qui le souhaitent, carte postale, photo souvenir en armure et cabinet d'aisance à la sortie du parc. En vous souhaitant une bonne journée, je me permets, mesdames et messieurs, de vous rappeler de ne pas oublier le guide. Que dis-je, le guide ? Le pauvre forçat de cette demeure. L'esclave privilégié qui ne vous demande pas l'aumône, mais de quoi subsister jusqu'au retour du comte de Paris. Merci. Merci, mesdames. Thank you, sir.
Nous avons suivi le groupe pendant qu'il se retirait par une porte dérobée. Les manants étaient sous le charme. Nous avons fumé une cigarette en attendant. Le type de l'entrée harnachait les gamins dans une armure cabossée et les prenait en photo avec l'arme de leur choix. 2 euros le Polaroid. Jordan, fais attention, tu vas éborgner ta sœur. Le type était super zen ou super stone ou super neuneux. Il s'activait lentement et semblait totalement dénervé. Une gitane maïs au coin du bec et la casquette des Chicago Bulls vissée à l'envers, c'était assez déroutant comme vision. Un peu fantasia chez les ploucs. « Jordan, pose ce truc !» Une fois les gens partis, Super Neuneux a pris un râteau et s'est éloigné en mâchant son clopeau. On commençait à se demander si le petit baron de la Lariotine daignerait jamais comparaître. Je ne cessais de répéter. J'hallucine. J'hallucine. Non mais j'hallucine là, en secouant la tête. Simon s'intéressait au mécanisme du pont-levis et Lola rafistolait un rosier grimpant.